Oui, bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Alors que l'on apprend que Nathalie Horler, inoubliable chanteuse de Cascada, est positive au Covid-19 et que l'on doute des préconisations de sa chanson Every Time We Touch, il me semble plus pertinent de se pencher un instant sur les conséquences économiques de la pandémie qui frappe actuellement le monde. Alors que les États d'Europe et les États de l'Ouest s'empressent actuellement de mettre sur pied des plans de relance de l'économie, ou devrais-je plutôt dire des plans de sauvetage, plans dont l'ampleur est absolument inédite dans l'histoire. Le Congrès américain s'apprête à voter dans les jours à venir un plan de plus de 2 000 milliards de dollars d'aide directe aux ménages et aux entreprises. Le gouvernement allemand, habituellement anti-dette, met quant à lui 500 milliards d'euros sur la table et 300 milliards d'euros sont prévus cette fois-ci du côté français, le tout étant exclusivement financé par la dette. Tout cela, naturellement, interroge parce que ces plans de relance sont hors du commun. Qui paiera? D'où sort cet argent? Quels sont les risques encourus par de tels plans de sauvetage conjoncturels? La source de cette manne formidable d'argent public sont les banques centrales qui peu à peu comprennent que ce ne sont plus des facilités de crédit que les entreprises désirent, mais bien du cash, des liquidités, de quoi payer les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires, mais surtout les salaires, parce que c'est là que le risque se situe. Payer les salariés à tout prix, whatever it takes, quoi qu'il en coûte, ne pas oublier le corps salarial, pour éviter de revivre les conséquences sociales, presque sanitaires, humaines, de la crise de 2008. Les conséquences, ce sont des millions de personnes plongées dans le chômage et la précarité, expulsées de leur domicile, contraintes à la flexibilisation, à l'exode, et sans parler des 10 années de récession ou d'austérité, de réduction des dépenses publiques, de coupes budgétaires, aux conséquences qui peuvent parfois s'avérer très graves. Le risque est de passer à côté de l'opportunité que nous offre cette grave crise mondiale de questionner le monde dans lequel nous vivons. Si humblement je pense que nos leaders politiques et économiques ne sont pas à 2 doigts d'enterrer le capitalisme, il est peut-être temps maintenant de le remettre en question dans sa forme actuelle. En effet, ci et là, les plans de sauvetage, notamment aux États-Unis et au Canada, se tournent vers les industries d'extraction minière, vers les industries lourdes. Que les investissements sont en baisse pour la première fois depuis 1980 dans le secteur de l'éolien et du solaire. En France, cette fois-ci, 80% des mesures fiscales adoptées en urgence par le gouvernement, 80% se concentrent sur les seules entreprises, alors que parmi toutes ces mesures fiscales, seuls 8% sont à destination des ménages et seulement 4% sont à destination de la santé. La question est légitime, la solution est-elle bien là? Sans nul doute, les pays développés, parce que leurs institutions économiques sont crédibles, se sortiront de cette crise. Ce choc exogène monumental sur notre économie sera derrière nous dans quelques mois, et l'économie pourra repartir, avec une dette plus élevée, certes, mais repartira quand même. Mais est-il souhaitable que nous repartions sur les mêmes bases? N'est-ce pas le moment de redéfinir ce que nous souhaitons vraiment pour notre futur et que nous balisions comment l'économie peut nous le procurer? Des économistes de tous bords, de tous courants, ont proposé une myriade de solutions, tant face à la crise que nous traversons, que pour gérer l'après-crise. Par exemple, achever l'idée de la mutualisation des dettes entre les pays européens pour sauver les États les plus fragiles, comme l'Italie ou l'Espagne, et éviter à nouveau le drame grec de 2009. Ou encore profiter des aides actuellement proposées aux entreprises, ces fameux 80% de mesures fiscales, cette masse incroyable de liquidités mises à disposition pour accélérer leur transition vers un mode de production plus respectueux de l'environnement et des travailleurs travailleuses, ou encore réduire le champ de la globalisation commerciale pour se recentrer sur les produits locaux à la fois nationaux et ceux de nos voisins afin de limiter d'une part les transports à travers le globe, mais surtout de limiter les interdépendances entre les pays, véritable canal de transmission des chocs économiques comme ceux que nous traversons aujourd'hui. Et enfin, repartir avec des infrastructures, notamment de santé et d'éducation, à la hauteur des défis qui nous attendent, et surtout à la hauteur des standards de dignité humaine, dont les témoignages des personnels hospitaliers à travers l'Europe montrent qu'ils ont été oubliés. Si la guerre, selon les termes présidentiels, que nous livrons au virus, s'achèvera par notre probable victoire, il ne faut pas oublier quelles seront les conséquences de la paix. ne pas faire des habitants et habitantes de la planète les doubles victimes de la pandémie et du libéralisme, mais remettre au cœur des priorités l'accès à l'éducation, aux soins et à la sécurité, pour que non seulement nous sortions de cette guerre victorieux, mais que nous en sortions grandis.
Merci pour ce point écho, Mathéo.